Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches.
Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes au Libre Journal de l'école, animé par Hervé Roland et Florence Leroux. Bonjour Hervé.
Bonjour Florence.
Alors aujourd'hui, c'est la rentrée des écoliers parisiens et nous allons nous intéresser avec nos invités à une question importante: comment renouveler l'école pour répondre aux défis éducatifs d'aujourd'hui? Mais avant cela, Hervé, écoutons vos commentaires de l'actualité éducative.
Bonjour, merci Florence et donc bonjour à nouveau à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors comme à l'ordinaire, nous commençons avec quelques informations un petit peu disparates. Une petite perle quand même pour commencer ce commentaire d'actualité, c'est ce court extrait de l'entretien donné par Guillaume Prévost, le secrétaire général à l'enseignement catholique, récemment nommé depuis le mois de septembre dernier. Donc entretien donné à l'hebdomadaire France Catholique il y a 2 semaines. Il y rappelle une chose importante, et même très importante, dont plus personne ne semblait se souvenir. Je cite Guillaume Prévost. « En septembre 2025, lors de ma prise de fonction, j'ai souligné que les enseignants des écoles catholiques n'étaient pas soumis au devoir de neutralité, ce que reconnaît l'article 6 du Code de la fonction publique et la décision du Conseil constitutionnel de 1977 sur le statut particulier des maîtres du privé. Il admet lui-même, je le cite toujours, « Tout le monde a été surpris, car tout le monde avait fini par croire qu'ils étaient des fonctionnaires. » Donc c'est un point intéressant, et je remercie et félicite Guillaume Prévost d'avoir rappelé ce point essentiel quand on nous parle de tout un tas de mots mélangés, laïcité, neutralité, mélangés avec laïcisme, voire athéisme et militant d'ailleurs. En fait, les enseignants catholiques ne sont pas du tout soumis au devoir de neutralité, contrairement à ce qu'un certain nombre d'inspecteurs avaient demandé, en particulier ceux qui demandaient à ce qu'on retire les croix dans les établissements catholiques. Là aussi, le Conseil d'État a dit qu'il n'en était pas question. Deuxième actualité, qui va aussi faire réagir, je pense, certains de nos auditeurs, faire réfléchir en tout cas, qui date il y a quelques jours. Une étudiante de la Sorbonne a fait rédiger son mémoire de fin d'études par l'intelligence artificielle. À mon avis, elle n'est pas la seule. Mais, faute de règles préalables précisant les modalités d'utilisation acceptables par l'université, eh bien un tribunal, et pas n'importe lequel, le tribunal administratif, vient de lui donner raison. Explication. L'intelligence artificielle, on le sait, s'invite partout, et donc jusqu'à la prestigieuse Sorbonne, où l'emploi de cette technologie a été contesté en octobre 2025 donc, par la présidente de l'université Panthéon-Sorbonne. Elle a décidé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'une de ses étudiantes, qui est en Master 2, donc c'est Bac plus 5, hein, au motif qu'elle a utilisé donc l'IA, comme on dit, pour rédiger son mémoire de stage de fin d'études. Mais, en janvier 2026, la section disciplinaire du Conseil académique de l'université, saisie à cette occasion, a rejeté tout principe de sanction contre l'étudiante. Cette décision n'a pas du tout satisfait la présidente, on peut l'imaginer, qui a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Paris. Et celui-ci a rendu sa décision en février, donc récemment, en référé, afin de traiter rapidement le sujet. Et il donne raison à l'étudiante en rappelant un principe de droit simple. Le caractère fautif de l'usage de l'intelligence artificielle ne peut pas être caractérisé si l'université n'a pas, au préalable, encadré l'usage de l'IA. Ce n'est donc pas le recours à l'IA qui est problématique en lui-même, dit le tribunal, mais la faculté. La Sorbonne n'a pas pris le soin de définir par avance les conditions acceptables de l'usage de l'IA. De quoi inciter sans délai les établissements de l'enseignement supérieur, mais aussi secondaire évidemment, à intégrer de manière explicite dans leurs chartes, dans leurs pratiques académiques, les modalités d'exploitation des programmes d'intelligence artificielle par leurs élèves. Avec donc une formalisation descriptive de la proportion considérée comme acceptable de la contribution de la part de l'IA. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est ce que le tribunal recommande. Donc de la part de la contribution acceptable de l'intelligence artificielle dans leurs travaux personnels. Sachant que le contrôle des connaissances ne peut évidemment se résumer à l'aptitude des étudiants à formuler des consignes pertinentes à l'intelligence artificielle, en particulier de générer des erreurs pour montrer que ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est le boulet cuirasse à l'envers, là. Donc, c'est une remise à plat des modes d'évaluation des savoirs, qui est déjà fortement perturbée par l'intelligence artificielle, mais qui doit se concrétiser aussi vite que l'intelligence artificielle est entrée dans les mœurs étudiantes et scolaires. Et la Sorbonne, d'ailleurs, a réagi en publiant une charte des usages de l'intelligence artificielle qui donc commence à définir les règles d'emploi. Un sujet dont on n'a pas fini de parler. Alors un sujet qui va faire un autre sujet qui ne va pas plaire aux contribuables qui m'écoutent. Donc, cher Nicolas, préparez-vous à sortir votre chèque. Et en l'occurrence, c'est Nicolas et Niklaus, son collègue allemand. Vous allez voir. C'est un sujet que je vais appeler « Vive Erasmus Plus ». Donc, c'est Virginie Foncalel, dans Boulevard Voltaire, qui raconte qu'elle a découvert d'un peu plus près un sujet. Et là, je demande à tous les auditeurs d'attacher leur ceinture. Elle cite le cas d'un étudiant qu'elle connaît, qui est en réorientation après des études de commerce, qui finalement ne lui plaisent pas. Alors, il voudrait plutôt travailler dans le tourisme. France Travail l'a orienté vers le programme Erasmus+. On connaît le programme Erasmus qui facilite les voyages des étudiants. Voilà la dimension supplémentaire. Donc l'étudiant a passé 3 mois à Malte pour améliorer son anglais. Moi, j'aurais plutôt eu tendance à aller quelque part en Grande-Bretagne, mais bon, lui, il était à Malte. On sait qu'il y a une forte présence britannique à Malte, mais enfin quand même, je pense que la météo est meilleure. Donc, dans des conditions tout à fait spectaculaires, Erasmus+ lui offre un gîte dans un appartement en colocation, plus une bourse de 750 € par mois pour son travail dans un musée. Travail entre guillemets, vous voyez de quel travail il s'agit. Donc, 750 € par mois quand on n'a pas de loyer à payer, dans un lieu comme Malte où le coût de la vie est très largement inférieur au nôtre, c'est assez confortable. En regardant ce programme d'un peu plus près, d'ailleurs, on découvre que les professeurs également peuvent bénéficier du programme pour passer quelques semaines, voire quelques mois à l'étranger. Au fond, pourquoi pas, si cela peut leur permettre d'améliorer leurs compétences. Je ne critique pas. Mais, chers contribuables, je vais vous poser une question. Mais restez bien assis. Savez-vous à combien s'élève le budget alloué par l'Europe à ce programme, dont les contours, nous allons le voir, sont pour le moins flous? Eh bien, à 26 milliards d'euros pour la période 2021-2027, soit à peu près 5 milliards d'euros par an. Alors déjà, vous réagissez, mais vous avez tort, car le projet de la Commission, qui, comme on le sait, considère qu'elle a le champ libre, est d'augmenter ce programme de 26 à 40 milliards d'euros, c'est-à-dire 8 milliards par an. Pas de problème, c'est Nicolas qui paie, selon l'expression consacrée. Alors on se dit naïvement qu'avec une telle manne à leur disposition, les jeunes Européens vont devenir des champions. Mais là, vous raisonnez mal. Vous croyez naïvement que c'est parce que les Européens paient que c'est les Européens qui vont en profiter. Or, regardons quels sont les bénéficiaires du programme. Et là, on reste un peu pantois. Alors, les bénéficiaires naturels sont les membres de l'Union Européenne, d'accord. Mais peuvent aussi postuler les pays en voie d'adhésion, comme la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie, vieux pays européen par sa culture, par sa géographie, par son histoire, par sa religion, comme chacun sait. Mais poussons un peu plus loin l'analyse. Aïe, aïe, aïe. Font aussi partie des bénéficiaires. Les pays faisant sont membres de ce qu'on appelle le voisinage oriental. Sympathique comme expression. Il y a des euphémismes européistes absolument remarquables. Alors, quels sont ces pays? Bien, je cite l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, la Biélorussie et l'Ukraine. Tant qu'on gagne, on joue. Donc, on va adjoindre encore quelques autres pays. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, la Russie. S'il y a l'Ukraine, il faut qu'il y ait la Russie. Le Kosovo, l'Algérie, l'Égypte, Israël, le Liban, la Libye, la Palestine, la Syrie. Ça ne vous suffit pas? Alors, sont aussi éligibles, sous certaines conditions, bien sûr, le Bangladesh, le Bhoutan. Alors, bizarrement, il n'y a pas le Népal. Ça me paraît bizarre, mais il y a le Bhoutan. Le Sri Lanka, la Thaïlande, le Cambodge, la Chine, le Japon, Macao, Brunei, Hong Kong, Singapour, la Corée. Mais aussi la région 6 de l'Asie centrale. Ce sont les pays en stan, vous savez, Tadjikistan, Ouzbékistan, etc., etc. Et puis la région 7, c'est le Moyen-Orient. La région 8, ce sont les îles du Pacifique. Vous voyez, ça, c'est un programme européen. La région 9, c'est l'Afrique subsaharienne. La région 10, c'est l'Amérique latine. la région 11 des Caraïbes, enfin vous avez compris le gag, on se demande plutôt qui n'est pas éligible. Alors en fait, on a trouvé les Martiens, les Atlantes, peut-être les Schtroumpfs, à vérifier. On n'a pas fait le compte total, mais il semble que la liste inclut en fait la Terre entière, sauf les États-Unis évidemment, ça c'est des Trumpistes, c'est des méchants. Donc dans le village monde, la banque c'est l'Europe. Et le premier qui paye, c'est Nicolas, et le deuxième, comme je le disais, c'est Niklaus, son compère allemand, qui sont contents. Elle n'est pas belle la vie. Troisième sujet, qui me fait un petit peu sourire. La chronique de la journaliste Isabelle Porta, sur RTL, journaliste bien connue, très positionnée à gauche, et compagne à la ville du sénateur écologiste Yannick Jadot. Alors, écoutez, sur Radio Courtoisie, je vais dire du bien de cette journaliste, et je vais même saluer son courage, puisque lors de sa chronique mercredi dernier sur RTL, elle a dit quelque chose qu'on entend rarement de la part de personnalités de gauche. Oresco référence, elle a dit, deux points ouvrés les guillemets, « J'ai mis mes enfants dans le privé oh ». J'entends déjà ceux qui nous écoutent qui frémissent. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, pourrait résumer la morale de l'histoire, contée par Isabelle Saporta. Elle a donc profité de sa chronique matinale pour évoquer un sujet qui lui est cher, comme à tous les parents, celui de ses enfants et de leur école. Elle commence, pétition de principe, par se poser en fervent défenseur, je cite, un ferveur défenseur du public, fruit de la méritocratie républicaine. Bravo. Les hussards noirs se rencontrent. Elle montre donc son attachement indéfectible à l'école publique, quoi de normal pour une femme de gauche. Mais patatras, le réel la rattrape assez vite et de manière très surprenante. Elle livre un véritable plaidoyer en faveur de l'enseignement privé. Je cite, « En attendant de redresser le public, par pitié, ne cassez pas le privé », a-t-elle supplié à l'antenne. Pourquoi une telle inquiétude? Parce qu'un obscur rapport recommande de sauver l'école publique en fermant des classes dans le privé. C'est toujours la même chose. Au lieu de réparer ce qui ne va pas, ça c'est la gauche, hein, on essaie de casser ce qui marche. À elle, ça la touche personnellement, parce qu'elle avoue dans la foulée, « Moi aussi, j'ai mis mes filles dans le privé », révèle-t-elle. Et elle ajoute ce cri du cœur qui touchera quand même tous les parents. « Oui, mais voilà, on a des convictions, et puis un jour, on a des enfants. Et là, on veut le meilleur pour eux. » Eh bien, le meilleur pour bien des personnalités de gauche, fervents défenseurs de l'école publique, ils savent où le trouver. On rappelle l'embarras du pauvre Pam Ndiaye, nommé ministre de l'Éducation nationale. Première conférence de presse. Il n'avait malheureusement pas trop préparé, un peu comme Amélie Oudéa-Castéra, n'avait pas préparé son argumentaire. Et voilà Tipa qu'un journaliste lui dit « Et où vos enfants, ils sont où ?» Et le bon Pam Ndiaye lui dit « Bah dans le privé, évidemment, quand même. » Et il avait une phrase terrible du genre « Je ne fais pas confiance au public. » Donc il s'était tout de suite mis à dos, bah, une bonne centaine de milliers d'enseignants, c'était très bien. Donc voilà, donc j'en terminerai là pour l'actualité. Il y a pas mal d'autres choses un petit peu rigolotes, mais on les garde pour une prochaine fois. Voilà Florence pour cette semaine.
Merci Hervé.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde.
Alors aujourd'hui, Hervé, nous nous intéressons à une question importante. Comment renouveler l'école pour répondre aux défis éducatifs d'aujourd'hui?
Donc, oui, je vais juste préciser un point, parce qu'il y a peut-être, il y a sûrement même des politiques ou des gens qui aident des politiques. Je suis stupéfait. Par le très faible niveau de proposition concernant l'éducation en général, l'école. Beaucoup de gens critiquent, et on va vous parler du classement PISA, de TIMSS, où la France s'écroule, du nombre de très bons élèves qui est descendu à 3%, là où la moyenne de l'OCDE est à 11%. Tout le monde connaît plus ou moins les chiffres. Mais ça fait bien des années que je n'ai pas entendu une personnalité, qu'elle soit de droite, de gauche, du milieu, d'avant, derrière, faire une proposition. Les dernières, soyons honnêtes et objectifs, c'est François-Xavier Bellamy, mais il y a maintenant presque 5 ans, où il parlait de l'ensemble de la question, y compris la formation des maîtres, y compris les salaires, etc. Depuis, rien. Ni à droite, ni à gauche. Tout le monde dit qu'il y a un mammouth, depuis que le socialiste Claude Allègre l'avait baptisé ainsi. Mais personne, et nous sommes pourtant dans une période électorale, donc j'avoue que j'ai prêté une oreille particulière, rien de concret, rien de pratique, rien de qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation de l'école.
Alors écoutons nos invités. Et donc à travers l'ouvrage « Renouveler les écoles catholiques », nous découvrirons une approche originale vieille de plusieurs siècles, aujourd'hui reprise par les écoles américaines, soutenue par l'ICLE, alors attention à mon accent anglais, l'Institute for Catholic Liberal Education.
Wow.
Et nous recevrons donc
10 euros dans le cochon.
Antoine Gazeau. Vous avez donc traduit cet ouvrage et l'avez fait publier aux éditions Sainte-Madeleine. Bonjour Antoine.
Bonjour Madame.
Mais donc nous aurons le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains une pédagogie pour les plus petits qui porte beaucoup de fruits. C'est la pédagogie Jean Quiry, développée par Marie-Brigitte Lemaire et inspirée de grands éducateurs chrétiens, et fondée sur le rythme, le geste et le chant pour une éducation intégrale de l'enfant. Alors pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Anne Debranche et Lise Abadi. Alors Anne Debranche, vous êtes secrétaire générale de l'association Pédagogie Jean Quiry depuis l'été 2025, c'est tout récent, enfin du temps déjà. Vous avez eu un parcours varié avant de rejoindre l'éducation nationale et de devenir professeur de philosophie. Et c'est notamment à cette occasion que vous avez constaté un niveau de lecture alarmant chez les lycéens et cela vous a convaincu à rejoindre Jean Quiry. Votre objectif, agir dès l'enfance. Pour vous, la parole orale comme écrite est une clé essentielle de la construction de l'intelligence. Bonjour Anne. Alors, nous ne vous entendons pas. Alors, je vais présenter Lise et je pense que le son... Ouais, si, bonjour Anne. C'est bon ?
Bonjour Florence.
Bonjour.
Oui. Vous m'entendez ?
Oui, très bien. Parfait.
Très bien.
Et donc, Lise Abadi, vous êtes formatrice de la pédagogie Jean Quiry depuis 2023. Vous êtes ingénieure en télécommunication de formation. Vous avez opéré une reconversion complète vers l'enseignement en passant par le réseau Espérance Banlieue. Vous y aviez enseigné les mathématiques au collège et puis le CE1 en primaire avant de rejoindre l'école Tarsissus dans l'Essonne où vous enseignez aujourd'hui au CP, au cours préparatoire. Bonjour Lise.
Bonjour Florence, bonjour Hervé.
Bonjour.
Tout à fait ça.
Alors, Anne, vous êtes secrétaire générale, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la pédagogie Jean Quiry, son origine et ce qui la distingue et aux enfants de quel âge s'adresse-t-elle ?
La pédagogie Jean Quiry, c'est une pédagogie d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, très complète, c'est sa spécificité. Pour deux raisons, notamment parce que elle ne décorrèle pas lecture, écriture et orthographe. Et elle permet à l'enfant d'apprendre à se structurer tout en acquérant les savoirs attendus à son âge. Tout ça dans le respect du développement de l'enfant. Il y a vraiment un temps pour tout. C'est quelque chose qu'on oublie facilement. Mais un enfant de maternelle n'a pas les capacités d'un enfant de CP ou de CE1. Jean Quiry, c'est une pédagogie, c'est-à-dire c'est un ensemble de méthodes et de pratiques qui existe depuis 70 ans. Mmh. Ça fait 70 ans qu'on a l'expérience et le recul avec des milliers d'enfants, des centaines d'écoles dans plusieurs pays, beaucoup de pays même, dans beaucoup de langues, Belgique, Chili, Canada, Polynésie, beaucoup de pays d'Afrique.
Alors, dites-nous, donc, les enfants de quel âge, Anne ?
Alors, c'est une pédagogie qui s'adresse, c'est l'apprentissage de lecture, l'écriture, l'orthographe, grande section CP, voire CE1.
D'accord.
C'est ça. Et on va s'adresser aussi bien aux enseignants qu'aux parents. On va s'adresser aux spécialistes de la remédiation, graphothérapeutes, orthophonistes. On a même une stagiaire qui fait du FLE, qui est français langues étrangères. Mmh. Donc, on peut même s'adresser aux adultes. si nécessaire. La spécificité, Jean Quiry, c'est une histoire extraordinaire, en fait. Marie-Brigitte Lemaire, comme vous l'avez dit, dans les années 50, termine sa formation d'enseignante en classe de CP. Elle sort de son année de stage en se disant « plus jamais ça ». « Plus jamais je ne demande à un enfant de 5 ans de rester les pieds au sol sans bouger, les mains sur la table, d'écouter, de répéter, de ne pas bouger. Ce n'est pas naturel. Ça ne lui correspond pas. » Donc en fait, elle fait des recherches, elle rencontre pas mal de chercheurs de l'époque, vous le disiez tout à l'heure. Elle s'intéresse beaucoup notamment aux recherches du père Marcel Jousse.
Oui.
Et elle a cette intuition extraordinaire. Elle va développer sa pédagogie. Moi, alors c'est moi, je viens d'arriver, vous le savez, j'arrive en août. Donc c'est mon regard sur la pédagogie. Pour moi, il y a vraiment deux principes fondateurs. C'est utiliser ce besoin de mouvement de l'enfant de 5 ans, qui est naturel. Et j'ai été très marquée par cette anecdote. Marcel Jousse qui dit à Marie-Brigitte Lemaire, tout ce que vous faites, tout ce que vous allez enseigner, il faut que ce le soit avec du rythme. Pour Marcel Jousse, en fait, le rythme, c'était le mode naturel de l'être humain. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que les sciences vont confirmer. Donc, la spécificité de Jean Quiry, pour répondre à votre question, pour apprendre à lire et à écrire en même temps, et les bases de l'orthographe, c'est extrêmement complet, c'est passé par le rythme, c'est passé par le mouvement, donc par la gaieté aussi. On pourrait... Ce nom quand même extraordinaire,
et Jean Quiry, la joie Jean. Déborde rien que
exactement.
Du nom de votre association. Donc,
c'est le chant, c'est le rythme, le geste, le chant. Voilà, on bouge et on est heureux. Et ça, c'est une des clés par rapport à mon parcours. On peut dire aux jeunes, lisez, 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 ça ne sert à rien. Déjà, s'ils ne savent pas lire, et ça ne sert à rien s'ils n'aiment pas lire. Le but, c'est de donner le goût de la lecture aussi. Voilà.
Très bien. Alors, le rythme, justement, Lise, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et en quoi les neurosciences corroborent-elles les intuitions de Marie-Brigitte Lemaire?
Oui, absolument. Alors, comme l'a dit Anne, donc le rythme est vraiment une spécificité de la pédagogie Jean Quiry. C'est un des trois piliers qui la composent, avec le geste et le chant. En fait, il est facile vraiment d'observer autour de nous que le rythme est absolument omniprésent. Si on observe déjà la nature, et particulièrement le vivant, on a le rythme des saisons, les marées, l'alternance jour-nuit, la respiration, les battements du cœur. Ça, c'est vraiment de manière évidente. Également, dans les phénomènes plus artificiels, par exemple les activités de l'homme ou les objets fabriqués par l'homme. Je peux citer le tic-tac de l'horloge, le signal lumineux d'un phare. Mais aussi, on va retrouver le rythme, bien sûr, en poésie, en musique, en chant, en danse, tous les arts, finalement. Et maintenant, de manière vraiment plus subtile, plus cachée, ce que nous dit effectivement la science, c'est que le cerveau est naturellement rythmique. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ce qui se passe au niveau du cerveau lors d'un apprentissage, c'est que les neurones synchronisent leur activité sur des oscillations régulières. Alors, dit autrement et plus simplement, en fait, on va avoir les neurones qui vibrent au même rythme lorsqu'ils encodent et rappellent un souvenir. Ce qui veut dire que finalement, la mémoire humaine repose en partie sur ce mécanisme de coordination rythmique entre neurones. C'est finalement assez incroyable de se dire ça. Et ça, c'est une étude publiée en 2025, toute récente, par une équipe de l'université de Fribourg, en Allemagne, qui l'a révélée. On a également une équipe du CNRS de Lyon, qui a montré dans plusieurs études depuis 2020 que commencer avec un rythme pouvait faciliter l'apprentissage du langage. Et donc, finalement, un enfant qui a chanté, qui a scandé, il est neurologiquement mieux préparé pour lire. Voilà, donc finalement, ces études récentes montrent que le cerveau est vraiment fait pour le rythme. Et finalement, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe facilement. Un enfant retient mieux une comptine qu'une leçon. Et voilà, donc dans Jean Quiry, on exploite vraiment ce mécanisme naturel au service de la lecture et de l'écriture. Mmh. Et oui, pardon.
Non, allez-y, allez-y.
Donc je continue, pour être un petit peu plus concrète dans ce que la pédagogie Jean Quiry propose comme activités qui permettent l'éducation rythmique justement de l'enfant, on va retrouver en premier lieu la leçon de chant et gestes. Donc elle comprend des exercices vocaux, des exercices rythmiques et le fait de gestuer les chants que nous chantons ensemble. Et là, on a vraiment le rythme qui s'inscrit vraiment dans le corps, mais également en leçon d'écriture. Ça peut étonner, mais le rythme est très présent aussi dans la leçon d'écriture. Alors, on va bien sûr décrire le tracé de chaque lettre de manière très précise lorsque nous l'enseignons aux élèves, mais en fait, nous allons plus loin. La lettre, elle va être rythmée, chantée, en même temps que nous la traçons dans les airs, au tableau ou sur la table. Tout ça va être vraiment, les enfants vont incarner en quelque sorte le tracé de la lettre. Et je pourrais citer d'autres exemples en lecture, le fait de le débit des mots, la musicalité de la phrase. On va frapper en tapant dans les mains, on va frapper pour rythmer les syllabes des mots. Tout ça, ce sont des petites activités de rythme au service de la lecture.
D'accord. Donc je rappelle que vous êtes en classe de CP à Saint-Tarcissus à Brice-sous-Forges. Est-ce que là vous pouvez nous faire entrer dans votre classe, parce que nous sommes à la radio, nous avons besoin d'images quand même malgré tout, et nous décrire un petit peu le déroulé d'une matinée et éventuellement nous faire la leçon d'une lettre de votre choix.
Oui, tout à fait. Alors avec plaisir. Alors en CP, nous commençons la journée de manière très joyeuse puisqu'on commence en chantant par la leçon de chant et gestes. Donc là, il faut vraiment imaginer tous les élèves debout derrière leur chaise, face à l'enseignant, face au tableau, et on va enchaîner des petits exercices, des exercices d'orientation qui sont en fait des exercices de latéralisation pour bien ancrer la droite, la gauche, en haut, en bas, etc. Avec des comptines. Des exercices vocaux pour travailler l'oreille, la justesse du chant. Et bien sûr, on va chanter le chant de la semaine. Chaque semaine, on a un nouveau chant. Les enfants sont très friands de découvrir le chant de la semaine. Et donc, on va le gestuer, on va faire des gestes dans les airs pour accompagner ce chant. On termine par des petits exercices d'assouplissement. Tout ça, ça va prendre à peu près 10 minutes. Oui. Et pendant ces 10 minutes, on travaille, donc vous avez vu, beaucoup de choses finalement, et les élèves n'ont absolument pas l'impression de travailler. C'est vraiment du pure joie. On passe ensuite à la leçon de lecture. Là, les enfants sont bien réveillés. Hein. Ils l'attendent avec impatience. Vraiment, moi, ce que j'observe depuis que j'enseigne en CP, donc depuis 5 ans, c'est que les jours de révision, ils manifestent vraiment leur déception lorsqu'ils n'apprennent pas un nouveau son, une nouvelle lettre. Donc là, pareil, comme pour la leçon de chant et gestes, on va pas avoir des élèves qui sont assis derrière leur bureau, qui lisent dans leur manuel. Non, on a des élèves debout qui découvrent le son du jour grâce à un petit enfant qui a un prénom, qui a une histoire en lien bien sûr avec le son du jour. Et à chaque son, à chaque lettre, va correspondre un geste. Donc on va allier vraiment la mémoire kinesthésique. En plus de la mémoire visuelle et auditive. Donc, si je vous donne un exemple qui est assez marquant, c'est lorsqu'on apprend la lettre S. Le petit garçon s'appelle Simon, il a une histoire où il va visiter la ménagerie à côté de chez lui, il va observer les serpents et il voit la langue du serpent qui sort et qui siffle. Et donc nous allons représenter cette lettre avec l'index, au niveau du menton pointé en avant et qui représente la langue du serpent qui sort de sa bouche, tout simplement. Donc, c'est vraiment très parlant pour les enfants. Il y a un petit côté affectif, en fait, qui crée vraiment un petit lien, les élèves, avec ces enfants qui sont affichés tout autour du tableau dans la classe. Et donc, une fois qu'on a découvert cette lettre, on va bien sûr s'entraîner très progressivement à la lecture de syllabes, de mots et de phrases. Donc, finalement, des enfants qui lisent en Jean Quiry sont des élèves qui font plein de gestes. Alors, ça va, pour des gens d'extérieur, ça peut paraître comme un langage des signes. Alors, c'est pas vraiment ça, hein, bien sûr, mais ça va vraiment leur permettre de segmenter chaque mot, de repérer bien les sons de chaque mot. Voilà. On a bien sûr la leçon d'écriture qui va suivre, puisqu'on apprend, comme l'a dit Anne, la lecture et l'écriture de manière simultanée, surtout pas décorrélée. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, en écriture, c'est pareil. On va avoir des élèves debout, en mouvement, qui vont tracer dans les airs, en rythmant et en chantant la lettre, au tableau, sur leur table, avec leur main droite, avec leur main gauche, avec les deux mains. Puis, en toute dernière étape, dans le cahier. Voilà.
Ils font du sport en même temps, c'est extraordinaire.
Alors, ils ne bougent pas partout, ils sont bien à leur place, ils ont leur place Jean Quiry attitrée, ils savent très bien, mais en tout cas, vraiment, on répond à leur besoin de mouvement, le besoin de mouvement qu'ils ont en tout cas à cet âge-là.
Et cela, donc, toute l'année ou c'est les premiers mois que vous utilisez ces gestes?
Alors, c'est vraiment toute l'année. C'est vraiment toute l'année parce que ça va être un appui, comme je le disais, hein, vraiment, on ajoute le côté kinesthésique qui ancre les apprentissages dans le corps. Ça vient vraiment renforcer ce que les élèves voient et entendent. Donc, c'est une mémoire supplémentaire, j'ai envie de dire. Donc, vraiment un appui pour la lecture. Et ce qui est vraiment la particularité de Jean Quiry aussi, c'est que ça va vraiment les aider en orthographe. Ce qu'on utilise, ils vont utiliser ces gestes en dictée et en copie lorsqu'ils recopient une phrase du tableau vers leur cahier, par exemple. Avant d'écrire quoi que ce soit, ils font leurs gestes en parlant, en verbalisant. Donc, ils font le geste des mots qu'ils vont ensuite transcrire dans le cahier. Et tout ça, c'est une étape supplémentaires que Jean Quiry rajoute pour leur permettre d'avoir bien mémorisé ce qu'ils vont écrire et bien segmenté avec les différents sons.
Très bien. Et alors, quels sont les bienfaits que vous voyez, puisque vous avez enseigné en CE1 aussi, donc est-ce que vous voyez une différence entre vos enfants qui sortent de CP avec la méthode Jean Quiry et ceux que vous receviez sans méthode Jean Quiry?
Alors, malheureusement, en CE1, j'avais qu'une année de recul, donc ça va être un petit peu compliqué de comparer. En revanche, je peux vraiment vous parler de ce que moi, j'observe en classe de CP depuis 5 ans. C'est vraiment la particularité, c'est une classe joyeuse. Vraiment, les enfants sont heureux d'être là, heureux d'apprendre en mouvement, en chantant, c'est vivant. Et également, c'est une classe qui va être très structurée. Puisque les exercices Jean Quiry sont très structurés eux-mêmes, toujours les mêmes, avec une progressivité qui est lente du début jusqu'à la fin de l'année. Et cette structure de séances, d'exercices et de journées, finalement, va vraiment rassurer et sécuriser les enfants. Donc, j'ai des enfants en face de moi qui sont à la fois pleins de vie, mais dont le besoin en mouvement est pris en compte, respecté. Donc, je vais les retrouver calmes et finalement disciplinés, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont ce lieu et ce temps pour bouger tout au long de la journée. Voilà, j'ai des enfants qui ont envie d'apprendre, qui réclament vraiment le prochain son. Ils vont compter le nombre de petits enfants affichés autour du tableau pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'année. Ils savent qu'on en a 33 à apprendre. Voilà, ils attendent avec impatience les suivants. Des élèves qui chantent tout au long de la journée, pas que pendant la leçon de chant et gestes, en récréation, dans le rang. Ils reprennent les chants qu'on a appris depuis le début de l'année. Et puis, bien sûr, de manière plus... sur les fruits qui sont portés par la pédagogie au niveau des apprentissages. Moi, ce que j'ai observé, ce sont des enfants qui, puisqu'on va toucher aux différents profils auditifs, visuels, kinesthésiques, qui rentrent facilement dans les apprentissages. Et voilà, on touche tous les profils d'enfants et qui rentrent facilement dans les apprentissages et qui vont vraiment bien retenir ce qui a été appris depuis le début de l'année. Voilà.
Hervé ?
Oui, peut-être une question, parce que, de manière très grossière, on peut définir que dans l'apprentissage, je prends une classe moyenne, on va avoir en gros, encore c'est à grosse maille, 3/3. J'ai la locomotive qui comprend assez vite, le groupe de ceux qui vont suivre avec une deuxième explication, et puis le troisième tiers dont il faut parfois s'occuper un peu plus. Est-ce que vous avez un peu plus d'homogénéité dans, ou est-ce qu'il y a toujours ce petit phénomène de décalage? Et si oui, comment y remédier?
Alors, ce phénomène-là, je pense qu'il est quand même visible effectivement dans la majorité des classes. Je l'observe également. En revanche, je dirais que les écarts ne se creusent pas par rapport à ce que je vois au début de l'année et à la fin de l'année, hein, la progression au cours de l'année. Et ce qui va permettre cela, c'est que, là je reviens sur Jean Quiry avec ce que j'ai expliqué juste avant, on va avoir beaucoup de collectifs, hein, vous avez sûrement compris dans ce que j'ai présenté, il y a beaucoup de temps collectif, mais à cela, on ajoute bien sûr des petits temps individuels où on va prendre chaque élève là où il en est, à son niveau, et ça, c'est justement ce qui permet de raccrocher un peu les wagons pour ceux qui ont un petit peu plus de mal.
D'accord.
Alors, le temps passe vite, là, nous aimerions rester un peu dans votre classe avec vous. Mais donc, des personnes qui souhaiteraient en savoir plus ou bien se former, des parents éventuellement, qu'est-ce que vous leur proposez, Anne?
L'association Jean Quiry organise des sessions de formation chaque été. On a la possibilité de deux sessions sur Paris et une en province. Cette année, ce sera à Lyon. Ce sont des sessions qui s'organisent en deux temps. Il y a 4 jours au mois de juillet ou au mois d'août, auxquels s'ajoutent 2 jours durant les vacances de la Toussaint pour permettre en fait de revenir avec les fruits de son expérience, ses questions et d'être plus en fait de savoir d'avoir fait une première immersion dans la pédagogie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est l'association Pédagogie Jean Quiry à une certification Calliope. Donc, les formations peuvent être prises en charge par les EPCO. Voilà. Donc, il faut évidemment, bien sûr, aller sur notre site, Pédagogie Jean Quiry,
que nos auditeurs pourront retrouver sur les formations. Oui, sur le site de Radio Courtoisie. Alors, une petite question quand même pour finir, Anne. Lorsque les... Lise, parce que c'est dans la classe. Lorsque les enfants commencent à découvrir la lecture et sont heureux de lire un livre, est-ce qu'ils n'ont pas envie de délaisser ces gestes et aller à la bibliothèque sans avoir besoin de gestuer?
Alors, effectivement, on va avoir différents cas qui se présentent à nous. Pour certains enfants, ils vont pas du tout avoir envie de décrocher de ces gestes, donc on les laisse les utiliser, bien sûr. Pour ceux qui ont un peu qui ont plus envie de les délaisser, c'est absolument pas un problème tant que la lecture, tant que le fait de ne pas faire les gestes finalement ne pénalise pas leur lecture. Déjà, ça c'est un premier point. Donc en dehors de la maison, et moi je l'explique clairement aux enfants et aux parents. Donc ça c'est absolument pas un problème. En revanche, en classe, ils continuent de faire leurs gestes, hein, puisqu'on apprend des sons jusqu'à assez tard dans l'année. Et je leur demande de les maintenir, et ça c'est très important, en dictée et en copie justement, cette fameuse étape qu'on rajoute en Jean Quiry, où ils gestuent avant d'écrire, puisque ça c'est vraiment très important pour éviter les erreurs de transcription de son entre ce qui est dit à l'oral et ce qui est écrit dans le cahier.
Merci Élise. Et puis Anne, vous m'aviez rappelé que l'année dernière, l'école qui a gagné le prix Étincelle utilisait la pédagogie Jean Quiry et qu'on le retrouve dans la vidéo. Donc nous invitons nos auditeurs à retrouver le prix Étincelle 2025 et à regarder la vidéo donc, de l'école Le CNV à Castres. Merci beaucoup à toutes les deux. Et donc, vous pouvez retrouver cette pédagogie sur le site jeanquiry.fr et puis téléphoner à Anne si vous avez besoin de plus d'informations.
La prochaine fois, on demandera aux enfants de venir chanter sur Radio Courtoisie.
Voilà. Mais justement, nous avons un petit chant pour vous, Hervé. Là. À bientôt, Anne. À bientôt, Olivier.
Merci.
Merci,
merci, au revoir.
Au revoir.
Merci, Hervé. Merci, Florence.
Au revoir.
Au revoir.
Pommes de rainette et pommes d'api, tapis, tapis rouge. Pommes de rainette et pommes d'api, tapis, tapis gris.
J'ai eu peur que ce soit du rap, je suis sauvé.
Et voilà une comptine pour terminer. Merci donc à toutes les deux. Et allez-y. Et donc nous allons passer le bobino avant de recevoir notre troisième invité.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Antoine Gazeau, vous avez traduit et publié aux éditions Sainte-Madeleine « Renouveler les écoles catholiques ». Donc un recueil de textes de, je reprends mon anglais, l'Institute for Catholic Liberal Education, préfacé donc par François-Xavier Clément et postfacé par Thibaut Collin. Donc cet ouvrage, venu des États-Unis, propose une réflexion de fond sur la réforme de l'école catholique. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Antoine ?
Bien, parce que face à une situation de crise, il me semble qu'il y a trois possibilités. La première, c'est de se réunir et de se dire « Mon Dieu, qu'on est malheureux, mon Dieu, qu'on n'a pas de chance, mon Dieu, que ça ne va pas, mon Dieu, que tout est en voie de destruction. »
Ça, c'est l'éducation nationale, ça.
C'est pas très constructif. Il y a une deuxième réaction bien compréhensible, mais à mon sens tout aussi stérile, c'est celle qui consiste à chercher la formule magique, la recette toute faite, le prêt à l'emploi, la solution qui va nous sauver tous. Alors, si on l'avait trouvée pour l'éducation, ben... on l'aurait déjà mise en pilule et on les vendrait très cher, les pilules. Et beaucoup plus sérieusement, l'éducation, pour quiconque s'y est essayé, ça n'est pas une technique, mais c'est un art. Et c'est même plus qu'un art, c'est une pratique morale. Et ce que les anciens nous ont appris, c'est que quand il s'agit d'agir moralement, eh bien, il faut agir avec la vertu de prudence. C'est-à-dire commencer par prendre conseil, commencer par écouter, par délibérer ceux qui ont peut-être plus d'expérience, ou en tout cas qui ont des expériences différentes, qui peuvent alimenter notre réflexion pour enfin savoir ce que l'on va faire. Et ce qui est assez fascinant avec ce renouveau, c'est le mot qu'ils utilisent, avec ce renouveau de l'éducation catholique aux États-Unis, eh bien, c'est que c'est tout le pays qui est concerné, avec des initiatives très très variées, mais avec une fécondité qui s'observe déjà de façon absolument considérable. Alors l'idée, c'est tout simplement de se dire, ben, commençons par écouter, afin de pouvoir mieux faire et sortir peut-être de la crise.
Mmh. Et alors, vous, justement, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a poussé à traduire et publier cet ouvrage pour le public français, si ce n'est cette réflexion déjà que vous venez de nous donner ?
Eh bien, j'ai enseigné pendant plusieurs années en lycée, dans un lycée sous contrat et puis ensuite dans un lycée hors contrat.
Oui.
Et j'ai aussi travaillé, et c'est toujours le cas aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur. Et il se trouve qu'au départ, j'ai découvert que la faculté dans laquelle je travaille et où j'ai fait mes études avait une lointaine parenté avec une institution de premier cycle universitaire, ce que les Américains appellent college, qui est en Californie, qui s'appelle le Thomas Aquinas College, donc le Collège Saint-Thomas d'Aquin. Je me suis dit, j'ai bénéficié en fait de l'accompagnement d'un voyage scolaire en Californie pour aller passer une journée sur le campus. Et j'ai découvert qu'ils avaient cette manière d'enseigner et cette manière de se réapproprier l'héritage catholique, l'héritage intellectuel catholique, qui me paraissait très stimulante. Et des années plus tard, un groupe d'étudiants, de façon tout à fait inopinée, m'a partagé le fait qu'eux aussi s'intéressaient drôlement à ce renouveau de l'éducation par les arts libéraux en Amérique. Alors ils étaient notamment stimulés par un d'entre eux qui vient du Paraguay, et qui avait lui-même bénéficié de cette formation. Mmh. De là est né un petit groupe de réflexion et de partage. Et lorsqu'il s'est agi d'aller plus loin, eh bien, nous avons contacté les Américains de l'ICLE, donc l'Institute for Catholic Liberal Education. Et ce faisant, eh bien, on a découvert que ce livre existait. Et voilà, on s'est mis au travail.
Très bien. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que cet Institute for Catholic Liberal Education ?
Eh bien, d'une certaine façon...
Vous assistez, Florence.
J'assiste. Je fais mon petit exercice de prononciation.
Sans le geste, mais ça
peut... Il faut chanter comme Jean Kerry.
En fait, c'est très simple parce que c'est d'une certaine façon le pendant de la Fondation pour l'école aux États-Unis. En fait, le renouveau en question, donc cette réappropriation de l'héritage intellectuel catholique dans les écoles, est né il y a une grosse trentaine d'années maintenant, et puis il y a environ 25 ans, est né cet institut qui voilà, serait vraiment l'équivalent d'une fondation chez nous, en fait, hein, dont les missions sont d'abord de réfléchir fondamentalement à l'éducation libérale catholique, une sorte de théorie, si vous voulez. Ensuite, bien sûr, d'offrir des formations, aussi bien pour les enseignants que pour les chefs d'établissement, mais aussi pour les personnels administratifs, pour comprendre ce qu'est cette éducation libérale catholique et la mettre en œuvre de la façon la plus féconde possible. Et puis aussi, troisième volet de leur mission, une sorte de conseil, au sens où un certain nombre de leurs experts se déplacent à la demande des écoles pour venir voir ce qui existe, ce qui mérite d'être maintenu, ce qui doit être changé. Bref, une sorte d'accompagnement complet des écoles qui désirent embrasser ce renouveau.
Et cet institut est géré par des fonds privés ?
Oui, absolument. Oui, c'est vraiment le cousin de la Fondation pour l'école.
Ça nous rappelle des souvenirs.
Et alors le terme « liberal education », il peut surprendre en France. Que signifie-t-il réellement ?
Alors c'est bien sûr la question centrale. « Libéral » n'a absolument pas ici une signification économique et n'a même pas une signification politique. Il a, cet adjectif a simplement une signification étymologique, c'est-à-dire qu'est libéral ce qui rend libre. Et donc l'idée est très simple, puisqu'elle est donnée dans l'Évangile. La vérité vous rendra libre, et la vérité c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc c'est lui qui est celui qui nous rend libre, c'est lui par son enseignement, par ses actions, nous rend libre. Et donc l'objectif c'est bien sûr de faire des esprits libres. Un esprit libre, c'est pas un esprit qui pense n'importe quoi au gré du vent, on sait que c'est une ambition de feuille morte. Un esprit libre, c'est celui qui pense clair, qui marche droit, qui est capable d'agir bien, qui est capable de contempler le beau, et plus fondamentalement encore, qui est capable de voir que le monde qui nous entoure n'est pas un chaos, que le monde qui nous entoure n'est pas désorganisé, mais qu'il est, comme disaient les Grecs, un cosmos, c'est-à-dire qu'il est un tout ordonné, un tout unifié. Et donc, sans rien mélanger et sans confondre l'arithmétique avec la géographie et sans confondre l'histoire avec la chimie, eh bien, de découvrir que chaque réalité dans le monde est en lien avec les autres, que chaque réalité dans ce monde nous parle fondamentalement de Dieu. Et que, en acquérant une culture générale, en acquérant des connaissances, en apprenant au fur et à mesure à s'émerveiller du monde qui nous entoure, eh bien, on va découvrir les traces de Dieu, comme disait saint Bernard. Finalement, on va petit à petit développer une sorte d'esprit contemplatif, alors pas du tout quiétiste ou attentiste ou passif, mais simplement cette capacité à véritablement chercher la vérité, la trouver, discerner le bien, le faire, et puis être capable aussi de témoigner dans la joie de cette vérité contemplée.
Bon, vaste programme, Hervé.
Vous me rappelez la définition classique de liberté, liberal education, c'est liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. Évidemment, c'est ce à quoi doit conduire l'enseignement.
Alors, une question un petit peu à la Hervé. Les écoles catholiques ont-elles perdu leur âme en adoptant les critères du monde, c'est-à-dire performance, conformité, culture du résultat ?
Bien, si vous permettez, je vais inverser votre question. C'est-à-dire, je trouve que le cardinal Gibbons avait dit quelque chose de très intéressant. Il disait la chose suivante : l'éducation spirituelle et l'éducation temporelle de nos enfants ne peuvent pas être séparées sans infliger à l'âme une blessure mortelle. Et donc la question, me semble-t-il, que vous posez, c'est « mais qu'en est-il de l'âme des enfants ?» Et la difficulté centrale à laquelle ces écoles américaines ont essayé de réfléchir et pour lesquelles ils cherchent des solutions, c'est de se dire « mais comment en fait résoudre l'éclatement de l'enseignement et de l'instruction que reçoivent les enfants dans les écoles ordinaires ?» L'éclatement en question, donc le cardinal disait, entre l'éducation spirituelle et l'éducation temporelle, c'est tout simplement le fait qu'on a tendance à être ce que moi j'appelle un peu schizophrène. C'est-à-dire, je vais bien faire mes devoirs, je vais bien apprendre mes leçons, je vais faire du français, je vais faire des mathématiques, je vais faire de l'histoire, de la géographie, de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Et puis, au début, ou au milieu, ou à la fin, mais dans un univers parallèle, je serai catholique. Et donc, je vais avoir, parce que quand même, ça se tient, un temps de prière, peut-être même la messe. On va peut-être même me proposer une retraite dans mon année scolaire. Mais tout ça, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en classe. Il se trouve que c'est simultané parce que c'est l'école qui est catholique, ou comme dit parfois, comme disent parfois certains établissements, ils ne font pas un enseignement catholique, mais ils sont des établissements catholiques d'enseignement. C'est un aveu effroyable, en fait. Il n'y a pas simplement des établissements catholiques d'enseignement, il y a des établissements catholiques d'enseignement catholique.
Oui.
Sinon, ils trahissent leur identité, ça je ne sais pas si c'est très grave, mais surtout ils trahissent ce à quoi les enfants ont droit, ce droit de naissance que leur confère leur baptême, qui est tout simplement de bénéficier d'une formation qui prenne au sérieux leur intelligence. En fait, dans l'éducation libérale, c'est comme s'il y avait une sorte de prise au pied de la lettre, c'est paradoxal, de la métaphore que Saint Jean-Paul II a donnée au début de Fides et Ratio, et la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit de l'homme de voler vers Dieu. Eh bien, la question, c'est véritablement celle-là. Si la finalité de l'école catholique, c'est de faire des saints, et ça, c'est pas une question qui est ouverte au débat, c'est ce que dit l'Église catholique elle-même. La finalité de l'Église catholique, c'est de faire des saints. Et si être un saint, c'est être quelqu'un qui est heureux? Et si quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui utilise son intelligence à pleine puissance et sa volonté de manière droite pour faire le bien, alors forcément, l'intégralité de ce qui se passe en classe est catholique. Et cela veut dire que, depuis le point de départ de la vie intellectuelle, Aristote disait « aujourd'hui comme autrefois ». Ce qui veut dire que c'est vraiment très vieux, puisque c'est Aristote qui disait ça. Oui. Aujourd'hui comme autrefois, c'est l'étonnement qui est à l'origine de la démarche philosophique. Aujourd'hui comme autrefois, c'est la capacité à s'étonner, à apercevoir une difficulté, à reconnaître qu'on ne connaît pas la cause, qui est le point de départ de la vie intellectuelle. Et le point d'arrivée, c'est l'émerveillement, c'est-à-dire la capacité à reconnaître que tout ce qu'on a appris nous a permis de répondre à nos questions, nous a permis de savoir ce que sont les choses, pourquoi elles sont comme ça, quelle est leur cause ultime, quelle est leur finalité, leur but, leur objectif. Eh bien, à ce moment-là, on aura non seulement des esprits qui sont bien formés, mais on aura des esprits libres, on aura des esprits qui sont capables de contempler la vérité, on aura des esprits qui sont capables de mettre de l'ordre dans leurs connaissances, de leur savoir, de reconnaître cet ordre, et je dirais même, voyez, des esprits qui n'auront pas de mal à savoir qu'il est absolument nécessaire d'avoir un métier, d'avoir une activité professionnelle, mais que ni l'argent, ni la réputation, ni la gloire, ni même le statut social ne sont des biens aimables en eux-mêmes. Ce sont des moyens qui sont nécessaires pour pouvoir mener une vie droite.
Ouais. Alors, c'est très, très tentant, mais par exemple, là, j'étais en train de lire la biographie de Guy de Fongallant, un éclair de sainteté, qui était scolarisé à Saint-Louis de Gonzague au début du siècle dernier. Et on voit que finalement, l'école dans laquelle il a été, ça a été sa croix presque, puisque tout était. C'était donc une éducation jésuite qui a donné de bons résultats académiques, mais qui ne mettait pas Dieu au centre, semble-t-il.
Exactement. Il n'y a rien de plus facile que de se laisser entraîner par la facilité, par l'esprit du monde, par les modes. Il ne s'agit pas de distribuer des bons points ou des bonnets d'âne, mais le fait est que, comme toujours, l'enseignement de l'Église est à la fois très juste et terriblement exigeant. Et que la question qui doit être posée, c'est celle que les Américains appellent « integration », donc impossible à traduire en français par « intégration », ça ne voudrait absolument rien dire. Mmh. C'est-à-dire la cohérence, nous disons en philosophie, l'architectonisme, c'est un mot compliqué, on aime bien ça, mais pour dire une chose qui en fait est relativement simple, c'est qu'il y a un ordre entre les différentes disciplines. Et donc la question, ce n'est pas de savoir si à tout bout de champ on va parler de Jésus-Christ, si on va parler des évangiles, si on va parler des sacrements. La question, c'est d'avoir toute manière d'enseigner, donc tout cours, toute leçon, qui fondamentalement est construite, pour la leçon, comme une orientation, un mouvement vers la réponse à la question qu'on a posée. On sait ce qu'on est en train de faire. La question, c'est pas de savoir si on va donner du sens aux apprentissages, ils en ont déjà un. La question, c'est de savoir si on a pris le temps d'expliquer aux enfants à quelle question est-ce qu'on est en train de répondre. Et qu'à la fin de la leçon, on sache qu'on a répondu à la question. Ensuite, ça veut dire être capable, lorsque c'est opportun, de faire des liens explicites avec d'autres matières ou d'autres leçons pour montrer aux enfants comment on peut faire. L'objectif étant qu'ils finissent par le faire par eux-mêmes. Un troisième point qui est absolument déterminant pour ces écoles américaines, c'est inspiré de ce que les colleges américains appellent « the seminar », donc le séminaire, c'est-à-dire en fait une participation très active des élèves à la classe. Alors tout de suite, on peut se dire « oh là là, ça sent l'enfant qui fait émerger les apprentissages, qui est au centre, etc. » Non, non, il s'agit tout simplement de mettre en œuvre une maïeutique, comme chez Socrate. Le maître pose des questions et l'enfant devient acteur, devient actif, parce qu'on lui a d'abord demandé de faire certaines choses pour préparer la leçon, par exemple lire un texte sur lequel on va travailler. Donc on lui pose des questions et sa réponse doit être non seulement formulée de façon intelligible, mais argumentée et enracinée dans le texte ou le document qu'on est en train d'analyser. Et le professeur ne pose pas ces questions au petit bonheur la chance, mais lui-même a un chemin très précis qu'il veut faire aux élèves. Et donc ce faisant, ils vont faire l'expérience qu'ils sont véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu, que leur intelligence est active, comme le bon Dieu leur a donné. Donc ce n'est sans doute pas une réponse totale, mais en tout cas, voilà au moins ce que je dirais par rapport à cette expérience.
Hervé ?
Non, je voudrais juste revenir sur Guillaume Prévost que je citais tout à l'heure, parce que dans le même article, vous me faites penser, donc il y a deux semaines, nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, il a dit quelque chose d'assez intéressant à propos de la mission de l'enseignement catholique, et ce qu'il dit, je vais le citer tout simplement, parce qu'il parle d'une forme de myopie dans le débat public, entre ceux qui s'opposent au projet éducatif chrétien. Et voilà ce qu'il dit. « Notre mission, c'est d'être pleinement chrétien et pleinement ouvert à tous. Notre mission, selon moi, se résume à cette phrase de l'Évangile, « Le Christ trouvera-t-il la foi quand il reviendra sur terre ?» Je cite toujours Guillaume Prévost, « Notre ambition est donc de se faire lever de nouvelles générations pour suivre le Christ. L'enjeu est de parler aux chrétiens, mais aussi aux autres, avec le langage de l'Évangile. Dans le débat public, il y a une perte de culture de ce qu'est la singularité du message chrétien. » D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais féliciter Guillaume Prévost d'être clair à ce point. Sur le rôle, la mission, la vocation, j'allais dire, de l'école catholique. Et là, le moins qu'on puisse dire, et par exemple, il défend mordicus le fait de dire une prière, on lui répond sottement « ça fait pas partie du temps scolaire ». Ce genre d'ânerie, il n'y a qu'à faire le temps scolaire, comme je l'avais déjà dit, de 8h35 à 9h30, comme ça, entre 8h30 et 8h35, c'est du temps non scolaire pour une prière. Quand on a face à des gens butés, il faut savoir trouver quelque chose d'intelligent. Mais ça rejoint un petit peu cette préoccupation de ces écoles catholiques qui veulent retrouver leur âme, tout simplement.
Oui. Mais il y a toujours cette question des résultats scolaires et certains établissements catholiques restent très
élitistes, pour le dire clairement.
Voilà, restent élitistes. Et donc l'ouvrage évoque, dans l'ouvrage, il y a une évocation de l'exemple d'une école paroissiale à Long Beach qui a cessé de placer les examens au centre, plutôt, pour remettre le Christ et les arts libéraux au cœur du projet. Et paradoxalement, les résultats scolaires ont progressé. Comment l'expliquez-vous? Est-ce qu'il y a une voie par ici?
On rappelle qu'à Long Beach, on est tout près de New York. Hein, c'est...
Alors, en fait, c'est Long Beach en Californie. Donc,
ah, ici,
c'est au sud de Los Angeles. Et c'est très important parce qu'effectivement, cette école est située dans un quartier qui n'est pas du tout Beverly Hills. C'est-à-dire que c'est un quartier plutôt défavorisé avec une présence majoritaire, pour ne pas dire écrasante, d'une immigration mezzo et sud-américaine. Et donc dans cette école, ils ont effectivement, comme beaucoup d'autres écoles dans le réseau, ils ont décidé d'arrêter de se crisper sur les examens nationaux, parce qu'ils voyaient bien que ça portait pas de fruits, et puis qu'ils étaient en train justement de trop dissocier formation spirituelle et formation intellectuelle des élèves. Et donc ils ont pris à bras le corps cette formation par les arts libéraux. Alors c'est en fait une manière de faire qui est très très ancienne. hein, qui date des Grecs, repris et complété par les Latins, théorisé par les Latins. On a, sous la plume de Marcianus Capella, les noces de Mercure et de philologie, qui développent les arts libéraux, le fameux trivium, trois chemins, qu'on connaît bien en français. C'est la grammaire, donc l'apprentissage de la langue, la pédagogie Jean Quéry en fait indubitablement partie. La dialectique, c'est-à-dire en fait l'art d'argumenter pour chercher la vérité. Et puis la rhétorique, l'art de bien parler pour pouvoir persuader un groupe du bien à faire et du mal à éviter. Et de l'autre côté, le quadrivium, ce que nous on appellerait plutôt les sciences, avec l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, qui inclurait sans doute les sciences naturelles aujourd'hui. Et puis, de façon plus étonnante, mais en fait on a bien vu une évocation directe de la fécondité de cet élément-là avec Jean Quéry, le quatrième art libéral du quadrivium, c'est la musique. Et dans cette école, ben, ils ont décidé de se réapproprier cette manière catholique, non seulement de concevoir la finalité, mais surtout d'élaborer les moyens. On va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire ce que la tradition d'enseignement catholique nous a légué depuis 20 siècles. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, on est dégagé de l'inquiétude d'un critère extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer des examens d'État, on va les passer. Mais on est dégagé de l'inquiétude des critères extérieurs. On cesse de vivre dans le regard d'autrui. Et on commence véritablement à s'approprier ce dont on parle. On commence véritablement à s'intéresser. La fameuse question « c'est pas intéressant » n'a plus lieu d'être parce qu'on n'est plus en train de se demander comment stimuler des émotions pour que, qu'un cas, bon ou mal an, on puisse avoir des bons résultats à l'examen. On est en train de découvrir que l'intérêt, c'est l'attente de mon intelligence. Et on va oser lire des grands textes. On va oser les mettre l'Iliade et l'Odyssée dans les mains d'enfants de CM2, de 6e, et on va oser leur poser des questions. Pourquoi, d'après vous, Achille a mal agi? Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Priam? Et ainsi de suite. C'est-à-dire, en fait, développer à l'écrit comme à l'oral des capacités intellectuelles qui sont aussi, il faut le dire, des techniques, qui sont aussi des bonnes habitudes. On va pratiquer les mathématiques sans rien abandonner de l'exigence de cette discipline, avec des manières de faire qui peuvent être inspirées de la méthode de Singapour, par exemple. Mais au fur et à mesure, on est tout simplement en train de véritablement former l'intelligence de ces élèves pour ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire la connaissance de la vérité, en assumant le fait que ce n'est pas une intelligence divine, que ce n'est pas une intelligence angélique, mais que c'est une intelligence humaine. Donc une intelligence raisonnable. Et ça veut dire quoi, raisonnable? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que ça passe par le discours. Ça passe par les mots. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'expression écrite, de l'expression orale, rigoureuse, argumentée, enracinée dans le document qu'on est en train d'analyser, eh bien ça déploie ma capacité à raisonner avec rigueur. Et puis, raisonnable, ça veut dire aussi que mon intelligence, dans son exercice, elle dépend des cinq sens. Et elle dépend même de l'imagination. Et donc, il y a tout un volet, même, je dirais, des aspects entiers de cette manière de concevoir l'éducation et de la vivre, qui consiste à stimuler l'imagination. On ne fait pas un cours d'histoire, on raconte l'histoire. On raconte l'histoire comme une histoire, en précisant que ce n'est pas une histoire. Ça fait beaucoup d'histoires, mais j'espère avoir été à peu près clair. Vous voyez, c'est-à-dire que certains vont même dire qu'en fait, certains professeurs d'histoire vont dire « Moi, dans mes cours, je mime le combat. » En fait, les enfants assistent non pas à un spectacle, mais à la reproduction de ce qui s'est passé. L'imagination est nourrie, l'imagination est stimulée. C'est la même chose dans la formation catéchétique et dans la formation sacramentelle, avec une part considérable pour le symbole. Un éveil à la connotation et à la dimension symbolique, non seulement des histoires, non seulement des œuvres d'art qui ont une place prépondérante dans ces écoles, mais aussi, dans une certaine mesure, de la réalité. Et donc, d'une certaine façon, c'est surprenant, et pas surprenant du tout, que l'abandon de la crispation sur les résultats aux examens nationaux se traduise par une excellence des résultats aux examens nationaux, parce qu'on a arrêté de se crisper sur l'accessoire, on a décidé de se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est la vie.
Et cette école, pour prendre l'exemple de Long Beach, existe depuis combien d'années, vous savez?
Alors je pense que ce qui compte, c'est à quel moment ils ont commencé leur renouveau. Et sauf erreur, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant.
D'accord. Et ils ont donc une traduction concrète dans les résultats?
Absolument, absolument. Et ça, c'est ce qui est observé dans toutes les écoles du réseau. C'est-à-dire qu'il y a des écoles que nous, on appellerait des écoles sous contrat, qui ont décidé d'adopter ce renouveau de l'éducation catholique par les arts libéraux. Ça s'est fait parfois dans la douleur, hein. Ça n'a pas toujours été très simple, hein, parce que la communauté éducative peut être récalcitrante, parce que les parents d'élèves peuvent freiner aussi, parce qu'ils ne comprennent pas forcément très bien ce qui se passe. Mais chaque fois qu'ils sont passés à l'action, en fait, l'école, en quelques années, a été parfaitement transfigurée.
Alors, c'était ma question suivante, c'est la réaction des parents quand on leur explique ça, parce qu'il doit y avoir un peu de vertige.
Exactement. En fait, elle est très contrastée selon les réalités locales. Il y a des histoires, c'est-à-dire des récits, hein, de ces écoles où finalement, ça s'est plutôt bien passé avec les parents. Il y a des récits, c'est les plus fréquents, où ça s'est d'autant mieux passé avec les parents que c'était les parents qui étaient demandeurs. Une sorte d'équivalent des écoles hors contrat, si vous voulez, où là, les familles sont à l'initiative de la demande, si ce n'est de la création de l'école, carrément de l'adoption de ce renouveau. Et puis, il y a les situations délicates où les familles freinent les quatre fers. Il y a une école, notamment, le récit est dans le livre, qui est passée à l'action voilà, en ayant réfléchi. Hein, ils ne sont pas allés à coups de bulldozer. Hein, mais en fait, les familles récalcitraient tout à fait. Et donc, ils sont finis par s'asseoir, réfléchir à ce qui se passait. Et donc, la deuxième année du renouveau, ils ont rendu obligatoire pour tous les parents une réunion de formation par mois, si je ne me trompe pas, oui. Pendant laquelle ils expliquaient aux parents ce qui se passait en journée, ce qui se passait en semaine, et pourquoi est-ce qu'ils avaient adopté cette espèce renouvellement radical de leur pédagogie et même de leur vie concrète à l'école. Et à partir de là, eh bien, ça n'a pas été magique, parce que certains parents ne venaient pas, parce que et certains avaient les oreilles un petit peu fermées. Mais globalement, les choses se sont beaucoup mieux passées. Donc la leçon est simple. Sans les familles, a priori, ça ne fonctionne pas. Hein.
Et y a-t-il une différence liée, tout le monde sait que vous l'évoquiez, les hispanophones, pour les appeler par leur nom, donc c'est les départements... les États proches de la frontière mexicaine, je suppose qu'on n'a pas la même réaction dans Nouveau-Mexique qu'au Connecticut.
Voilà.
Et est-ce que c'est cette différence-là qui a provoqué plus de problèmes, parce qu'il y a en plus l'apprentissage de la langue anglaise qui n'est pas parlée à la maison, ou c'est indifférent ?
Non, parce que l'exemple que je vous donnais des familles qui récalcitrent, c'était pas au sud des États-Unis.
Ah, d'accord.
Et c'est plutôt les familles bourgeoises qui sont récalcitrantes.
Oui, disons qu'il peut y avoir plein de paramètres, mais... je pense qu'un des points communs entre les Américains et les Français, c'est qu'on est des êtres humains. Et on aime bien demander le changement, mais on n'aime pas quand le changement se produit. Vous voyez, le « c'était mieux avant » et « on a toujours fait comme ça » est quand même un peu le réflexe spontané. Et c'est vrai que le fait de s'affranchir, non seulement dans les mots, mais aussi dans la pratique, des réquisites d'État, peut créer un vertige, hein, peut créer une sorte d'inquiétude chez les parents, qui est compréhensible. Mais ici, il faut aussitôt préciser, vous voyez, qu'il n'y a pas, dans cette conception de l'éducation libérale catholique, il n'y a pas de négation des nécessités de la vie. Hein. Ça n'est pas hors sol. Hein.
Ce n'est pas idéaliste.
Non, ce n'est pas idéaliste, voilà, exactement. Et bien sûr qu'il faut un métier, mais... Donc ça veut dire qu'il faut être choisi par une bonne université. Aux États-Unis, ça veut dire quelque chose. Mais tout ça viendra par surcroît.
Et j'imagine qu'elles ont la liberté de recruter leurs enseignants.
Exactement. Alors, ça dépend du statut de l'école. On a à peu près le même système qu'en France, c'est-à-dire des écoles publiques, des écoles privées sous contrat, ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça revient à ça, et des écoles hors contrat. Et là, évidemment, ça dépend des réalités territoriales, mais globalement, la loi américaine, pour le coup, c'est l'autre sens du mot libéral, est quand même beaucoup plus souple. Et à partir du moment où une institution existe et n'est pas en faillite et ne martyrise pas les enfants, on a un petit peu tendance à la laisser tranquille quand même.
Mais les salaires sont ajustés par rapport à d'autres écoles.
C'est un point sur lequel insiste l'Institute for Catholic Liberal Education, de bien réfléchir au juste salaire, pour que les enseignants puissent être véritablement disponibles pour concevoir leurs leçons, pour les mener de la façon la plus souple et la plus pédagogue possible, et puis, ce qui est capital, pour tout le temps du tutorat. Et quand on voit un peu sur les sites de ces écoles et qu'on voit les petites vidéos de présentation, les élèves, alors c'est à l'américaine évidemment, hein, mais les élèves témoignent de la disponibilité des enseignants. Le prix à payer est littéralement un prix à payer. Mmh. Et donc il faut bien réfléchir. Effectivement, rémunérer les enseignants au lance-pierre, ça n'est pas une bonne manière de les libérer eux-mêmes. Oui.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments sur une école primaire, concrètement,
oui.
Le déroulé d'une... soit d'une journée, soit d'une,
alors, d'une journée, hélas,
semaine, ou alors de l'année, enfin, quelque chose de concret pour nous mettre en bouche encore plus.
Oui, en tout cas, je n'ai pas été le témoin direct de ce qui se passe en école primaire. Une des étudiantes que j'évoquais a passé du temps dans une école américaine et a vu comment ça se passait un petit peu au primaire et puis beaucoup au collège et au lycée, parce que c'est vers là que son intérêt se portait. Ce qui est certain, c'est que l'école en question donner une véritable place aux apprentissages fondamentaux de lecture, d'écriture, de mathématiques. Et comme je vous le disais, il y aura donc différentes pédagogies concrètes qui pourraient être adoptées, c'est-à-dire qu'une pédagogie comme Jean Quéry pourrait tout à fait parler à ces écoles. J'évoque la méthode de Singapour pour les mathématiques, par exemple, mais sans aucune contrainte. Vous voyez, ce sont des outils qui sont envisagés et certainement pas des moyens qui sont imposés. Et puis, il va y avoir cette place pour, je dirais, la mise en scène de l'histoire. Il va y avoir aussi du temps pour l'histoire des arts. Donc, on va projeter des œuvres. On va apprendre à l'enfant à regarder. C'est-à-dire, on regarde en silence. Parfois, on nous a posé une question avant, parfois non. Et puis, la maïeutique se met en place. Elle va se mettre en place aussi en littérature, je l'évoquais rapidement. Elle va se mettre en place aussi potentiellement en histoire, parce que viendra le moment où on va carrément lire des témoignages des contemporains. C'est-à-dire que plutôt que de parler de Saint-Louis, on va aller chercher un texte de Saint-Louis. Alors évidemment, les Américains ne parlent pas de Saint-Louis. Enfin, ils pourraient, mais voilà. Mais on va aller chercher un témoignage direct de Saint-Louis, un texte, ou alors un texte des contemporains. Et puis on va lire, et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez, il y a à la fois quelque chose de très classique, de très habituel, c'est-à-dire que les disciplines scolaires sont les mêmes. Ce qui change, c'est cette manière de mener le cours autant que faire se peut de façon maïeutique, en s'appuyant sur des sources primaires, en s'appuyant sur des grands textes, en s'appuyant sur des grandes œuvres. Avec cet axe pédagogique, on va apprendre à lire, bien sûr à lire déchiffré, mais à lire analysé, à lire synthétisé, à lire s'approprier ce qui est dit pour pouvoir mieux le discuter. Et puis on va apprendre à regarder, et on va aussi apprendre à écouter en musique.
Et alors, qu'est-ce qu'une école véritablement catholique selon les auteurs ?
Ce qui est très intéressant, c'est que parmi les textes fondateurs, entre guillemets, qui n'ont pas été écrits pour être des textes fondateurs, il y a une conférence de Mgr Miller, qui a longtemps été secrétaire de la Sacrée Congrégation pour l'éducation catholique, qui est devenu un livret que nous avons traduit, que nous avons rajouté comme texte complémentaire, parce qu'il est vraiment... une des sources indispensables, une des inspirations de ce renouveau. Et dans cette petite conférence, Mgr Miller donne 5 critères essentiels de toute école catholique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les arts libéraux n'apparaissent pas, non seulement dans les critères, mais pas non plus dans l'enseignement qu'il dispense, mais au fond, ils sont vraiment en filigrane. Et voilà les 5 critères qu'il donne. D'abord, une école catholique doit être inspirée par une vision surnaturelle, ce qui veut dire concrètement que la foi est au centre. Et la foi, en tant qu'elle est l'annonce de la vie éternelle. Deuxième critère, ces écoles catholiques ou une école véritablement catholique doit être fondée sur une anthropologie chrétienne. Donc il faut avoir une claire vision de ce qu'est l'homme tel que l'enseigne la révélation chrétienne, appuyée bien entendu sur les leçons d'une saine philosophie. Troisième critère, très intéressant me semble-t-il, une école catholique c'est une communauté qui vit en communion, qui est animée par une communion de vie. Et c'est très étonnant de voir que c'est le critère que Mgr Miller développe le plus, où il envisage des interactions entre tout le monde, en fait, y compris le président du conseil d'administration et l'enfant de grande section. Quatrième critère, ces écoles doivent être pénétrées d'une vision catholique du monde. C'est là que arrive la nécessité de réfléchir fondamentalement au programme. On va y revenir d'ailleurs. C'est maintenant, pardon. de réfléchir au programme. Vous voyez qu'il y ait cette fameuse integration, cet architectonisme. Tout ce qu'on fait est ordonné, s'appelle mutuellement, parce que la création du bon Dieu est fondamentalement une, elle est fondamentalement ordonnée. Et donc, il n'y a pas une couche de vie intellectuelle et par-dessus un saupoudrage de vie spirituelle, ou une couche de vie spirituelle et par-dessus une couche de vie intellectuelle, et inversement proportionnelle ou égale. Non, il y a une vie authentiquement chrétienne. La foi et la raison sont les deux ailes qui portent l'intelligence de l'homme vers Dieu. Et puis, dernier critère, cette école authentiquement catholique, elle est soutenue par le témoignage de l'Évangile. Donc ça veut dire exactement ce que vous disiez tout à l'heure, qu'elle est orientée vers la mission, elle est orientée vers l'annonce de l'Évangile, mutuellement, à l'intérieur comme à l'extérieur, ad intra comme ad extra. Il s'agit de vivre ce qui est enseigné. Donc il n'y a pas de paradis sur terre, ça c'est évident. Mais quand on reçoit une formation authentiquement catholique, eh bien, on est déjà un petit peu stimulé à essayer de limiter la quantité de péchés qu'on va commettre chaque jour. Quand on vit autour de personnes qui s'efforcent de vivre de cette façon-là, on est quand même stimulé par leur exemple. Et quand en plus tout le monde prend ça à cœur, eh bien, on est sacrément, sacrément soutenu. Et peut-être même qu'on pourra apporter du fruit.
Alors, vous travaillez vous-même dans un établissement supérieur privé fondé sur la doctrine sociale de l'Église. Ouais. Est-ce que vous voyez des fruits de cette approche?
Oui, indubitablement. Sans vouloir faire des liens loufoques, c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que nos étudiants sont libres. Après une licence de philosophie ou après une licence de psychologie, ils sont authentiquement libres, intérieurement. C'est-à-dire que quand on essaie de chercher de façon active, rigoureuse, cohérente, argumentée, fondée dans la lecture des grands textes et dans une expérience sereine du monde, eh bien, on sait ce qu'on pense, on sait pourquoi on le pense et on sait pourquoi on a raison de le penser. On n'a pas peur. Mmh. On n'a pas peur de discuter avec qui que ce soit. On n'a pas peur de lire des pensées divergentes, voire contradictoires, parce qu'au fond, on sait quoi faire. On sait comment raisonner, on sait comment analyser, on sait comment discuter, on sait comment essayer de répondre, et on sait qu'on ne va pas le faire seul. Mmh. Que si on reste seul dans la vie intellectuelle, on finit par mourir. Alors que si on fait ça ensemble, ça va aller beaucoup mieux. La réussite professionnelle, enfin d'abord universitaire pour l'entrée en master, et ensuite professionnelle d'une immense majorité de nos étudiants, atteste que véritablement, cette manière de concevoir l'éducation, l'enseignement et de les vivre, eh bien, est tout à fait féconde. Très souvent, nous avons des témoignages de nos étudiants, mais aussi de certains professeurs d'institutions d'enseignement supérieur public, dans lesquels nos étudiants poursuivent en master, par exemple, qui nous disent qu'il y a une manière de faire. Ils ne sont pas parfaits, hein, nos étudiants, Dieu sait, hein, mais ils ont quand même une manière de faire qui, humainement, dans l'interaction, dans le rapport avec autrui, est empreinte d'un authentique respect, d'une réelle courtoisie, d'une réelle bienveillance, d'une vraie docilité envers les enseignants, quand bien même leur pensée est à l'opposé de ce que nos étudiants tiennent pour vrai. Et puis, un souci de bien faire, un souci de mettre en œuvre ces compétences rationnelles. Donc, ce n'est pas magique, mais en tout cas, oui, ça porte des fruits.
Et alors là, les auditeurs se demandent dans quel établissement vous enseignez.
Oui,
là.
Pardon, je ne l'ai pas dit.
Oui, j'allais dire, il y a un secret bien gardé. Là.
Excusez-moi. C'est que, oui, le contre-exemple par excellence, celui qui ne prend pas le temps d'expliquer quoi que ce soit en parlant de pédagogie. Je travaille à l'IPC, qui est une petite faculté de philosophie et psychologie à Paris.
Merci.
Bien connu.
En tout cas, connu de certains, sans doute certains de vos auditeurs, oui.
Alors, les auteurs, là, et vous-même, appelez à l'audace.
Oui.
Alors, concrètement, aujourd'hui en France, moi, j'ai toujours, quelles sont les pistes, les premiers pas réalistes vers un renouveau, d'après vous? J'ai quand même cité, parce que c'est intéressant, le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, lui, il a un discours assez clair.
Bien, je pense que ma réponse va en décevoir beaucoup. Un jour que je discutais avec un éducateur chevronné de ces questions-là, il m'a dit « Ah mais vous comprenez, l'urgence est partout, il faut passer à l'action. » Et je lui dis « Vous êtes sûr qu'il ne faut pas commencer par réfléchir d'abord ?» Et c'est à peine une boutade, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, et en particulier grâce aux éléments que vous avez apportés, on a manifestement beaucoup de chance d'avoir un tel secrétaire général d'enseignement catholique. Et il ne s'agit certainement pas de nier tout le bien qui est fait dans les établissements sous contrat, dans les établissements hors contrat. J'ai rencontré dans les établissements dans lesquels j'ai travaillé des éducateurs absolument extraordinaires, des enseignants de premier plan. Donc on ne va pas monter sur une caisse à savon en disant « les gars, vous êtes des rigolos, maintenant vous allez voir ce que vous allez voir ». Ce serait aussi odieux que clinique, pour ne pas dire franchement scandaleux. Mais je crois que ce qui est déterminant, c'est de se dire « soit on continue d'essayer de coller à un monde qui ne nous correspond pas, qui va à l'encontre de tout ce que l'Église enseigne comme étant vrai, bon et beau. Et donc, on va en permanence attraper la savonnette et elle va en permanence nous glisser des mains. Soit on se dit, il faut évidemment composer avec ce monde, mais sans renoncer à ce qui est notre héritage, sans renoncer non seulement à la finalité, la sainteté, mais aussi aux moyens, les arts libéraux, ou en tout cas l'authentique tradition intellectuelle catholique, qui sont véritablement transmis par l'Église, et que l'Église encourage. J'ai été très frappé en traduisant ce livre du nombre de textes donnés par le Saint-Siège que j'ignorais à propos des questions scolaires et éducatives. Mmh. Et j'ai été aussi frappé de découvrir que certains ne sont toujours pas traduits en français. Mmh. C'est très très frappant, parce que ça veut dire que l'Église a des choses à nous dire, et qu'elle nous les dit parfois à temps et à contre-temps depuis longtemps. Et que nous n'avons pas toujours eu les moyens, peut-être qu'on n'a pas su aussi, hein, mais nous n'avons pas toujours eu les moyens de l'entendre. Et donc moi je dirais, pour répondre à votre question, vous voyez, et c'est le but de cet ouvrage, c'est pas un ouvrage de sagesse, c'est pas un ouvrage qui va nous dire ce qu'il faut faire, c'est pas un ouvrage qui va nous donner les recettes, les formules, c'est un ouvrage qui est provocant, parce qu'il y a des choses qui sont dites, elles sont plus ou moins bien dites, il faut être honnête. Il y a des choses qui sont partagées, ça c'est très très intéressant. Il y a des pistes qui sont ouvertes. J'aimais bien dire, quand j'ai lu le Paris bénédictin de Rod Dreher, que c'était une correction fraternelle. Mmh. Il ne fallait surtout pas y voir un livre de sagesse. Rod Dreher, à mon sens, je ne pense pas qu'il serait offensé, n'est pas un maître à penser. C'est un frère chrétien qui nous secoue un petit peu. Eh bien, Renouveler les écoles catholiques, ce n'est pas un livre de sagesse. C'est un livre de gens qui sont des experts de l'éducation, parce que ce sont des professionnels de terrain, qui vivent une réalité qui correspond en bien des aspects à ceux que nous vivons de l'autre côté de l'Atlantique, et qui nous disent « voilà ce qu'on fait, ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine d'y réfléchir ». Le meilleur usage qu'on puisse faire de cet ouvrage, et c'est vraiment ma réponse à votre question, c'est-à-dire on lit, et puis on discute, on dit sur quoi on n'est pas d'accord, on dit pourquoi on n'est pas d'accord. Et de là vont naître, je pense, des moyens adéquats pour essayer de faire un peu mieux demain qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci. Antoine Gazeau. Je vais laisser Hervé redonner le titre de l'ouvrage.
Oui, donc je pense que beaucoup de nos auditeurs seront très intéressés, en particulier bien sûr tous ceux qui gravitent autour de questions d'éducation. Donc, Renouveler les écoles catholiques, c'est publié aux éditions Sainte-Madeleine, et comme ça vient d'être très bien dit, ce n'est pas un ouvrage, je dirais, théorique, c'est un ouvrage pratique, de bonnes idées, de bonnes pratiques. Espérons qu'elles pourront être copiées aussi dans notre beau pays. Merci Antoine.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Bien, chère Florence, après cette excellente discussion, double, hein, pédagogie Jean Quiry, et puis renouveler les écoles catholiques, il y a visiblement beaucoup à faire et beaucoup à lire aussi. Nous passons, pour les quelques minutes qui nous restent, aux actualités et l'agenda des jours et semaines qui viennent.
Tout à fait. Et alors, donc, nous avions parlé la dernière fois des portes ouvertes de l'ILFM pour la formation initiale des jeunes gens qui veulent se former au maître d'école. Eh bien, les journées portes ouvertes physiques ont eu lieu et la prochaine aura lieu en visio le mercredi 25 mars de 11h à 12h30. Donc, une lucarne portes ouvertes pour découvrir le métier de maître d'école et la formation que la Fondation pour l'école propose pour cela. Ensuite, nous avons une formation au droit du travail le 18 mars en visio de 13h à 17h. Et puis pour les créateurs d'école, là, ceux qui ont envie de se lever, eh bien, la formation aura lieu le samedi 4 avril toute la journée en visioconférence.
Très bien. Alors le sujet suivant, c'est un sujet qui tient au cœur de bien des écoles, à savoir le prix Étincelle et puis la convention donc, de la Fondation pour l'école.
Tout à fait. Donc le prix Étincelle, donc, cette année, c'est le sujet, c'est la nature et l'école, de l'émerveillement à la connaissance. Et donc le jury se réunit ce soir pour définir les 5 lauréats qui seront annoncés lors de la grande convention des écoles libres, qui aura lieu le 21 mars prochain à la Cité universitaire de Paris, au milieu du jardin printanier.
Mmh, on l'espère.
Oui, il sera printanier, on ne sait pas si le soleil sera bleu, comme les studios de Radio Courtoisie, mais l'espérons. Et donc, lors de cette convention, donc nous attendons 200 acteurs de la liberté scolaire, des créateurs d'école, des directeurs, des administrateurs. Et vous pouvez encore tout à fait vous inscrire. Il y a de nombreuses formations et témoignages. Cela va des conditions d'une bonne gouvernance, en passant par les étapes d'une création d'école pour les créateurs, au recrutement, comment procéder, réussir sereinement son inspection et diverses autres interventions. Et puis, pendant l'heure du déjeuner, autour d'un bon repas, il y aura des moments importants pour pouvoir vous mettre en réseau, que les créateurs rencontrent des directeurs et des créateurs qui ont réussi à franchir le pas et à développer leur école. Voilà, un grand moment qui se terminera par le débat. Hervé, je vous laisse en parler.
Alors d'abord, c'est important ce temps d'échange avec les partenaires parce que on a beaucoup cette question, est-ce qu'on peut rencontrer des gens qui ont fait, qui ont réussi, qui ont franchi le pas, qui ont créé, etc. Donc à tous ceux qui se posent la question, la réponse est oui, là vous aurez vraiment 2 heures à peu près au cours de ce déjeuner pour échanger, pour écouter ce qui marche, ce qui marche pas aussi parce qu'il faut parler de tout, ce qui est difficile. Donc c'est une réponse à une demande qui nous est très souvent adressée. Et donc à la fin, le débat donc sera pour changer sur l'intelligence artificielle. Et nous aurons donc, Florence, vous nous rappelez, donc il y aura Luc Ferry
et Emmanuel Brochet, donc le doyen de l'IPC, dans laquelle travaille
Antoine Gazeau. Ouais. Donc un débat sur cette question. Le débat sera géré par ChatGPT. Non, je rigole.
Lisa Hirsig, pardon, qui animera ce débat sur l'avenir de l'école à l'heure de l'IA.
Je pense que ce sera une journée donc très complète sur l'ensemble des sujets. Je pense préparer les inspections, etc. Comment recruter. Beaucoup de questions concrètes qui se posent à tous les directeurs et créateurs d'école. Voilà pour cette journée donc du 21 mars. Et en plus, il y aura la remise donc du prix Étincelle. Rappelez-nous, le premier prix, c'est
en montant 15 000 euros.
15 000 euros, donc voilà qui va ravir un certain nombre d'écoles. Chère Florence, nous avons terminé, je crois, le temps qui nous était alloué aujourd'hui et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, ça tombera le lundi de Pâques, très vraisemblablement, nous aurons préenregistré quelques jours auparavant. Nous vous souhaitons une excellente semaine.
Merci Hervé et merci Claudia.
Merci Claudia.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle ?
Vous venez d'entendre le libre journal de l'école, dirigé par Florence Leroux et Hervé Roland, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 9 mars 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.